Le pouvoir de l'intimité spirituelle. Première partie. Introduction par Mike et Marilyn Philip.
C'est la leçon 7, prier ensemble. C'est la chose la plus difficile que Marilyn et moi ayons jamais faite spirituellement. Encore. Une fois que vous l'avez fait, waouh, cela en vaut la peine.
C'est juste. Je pense que la cohérence est la chose la plus difficile. C'est de le faire tous les jours, de prendre rendez-vous avec le Seigneur et de le respecter tous les jours, peu importe ce qui se passe, comme les interruptions et les choses que vous n'aviez pas prévues. Il suffit de prendre ce rendez-vous et de le respecter.
Au cours de cette session, nous allons partager le pouvoir de l'intimité spirituelle, prier ensemble. Cette classe est celle qui maintient tout ensemble.
Mais avant de commencer, j'ai quelque chose que j'aimerais vraiment vous lire. Juste pour voir si tout cela vous parlerait de la nécessité de la prière. Cher Seigneur, jusqu'à présent, aujourd'hui, nous nous en sortons vraiment très bien. Nous n'avons pas bavardé, nous n'avons pas perdu notre sang-froid, nous n'avons pas été cupides, grincheux, méchants, égoïstes ou complaisants. Nous n'avons même pas pleurniché, ni nous sommes plaints, ni n'avons maudit. Et nous n'avons pas trop dépensé notre argent. Mais nous allons sortir du lit dans une minute et je pense que nous allons vraiment avoir besoin de votre aide à ce moment-là. Et c'est exactement la vérité. C'est vrai. Nous ne pouvons pas commencer la journée ou faire quoi que ce soit sans Dieu. Et donc la profondeur de notre besoin d'avoir la prière et de passer du temps avec lui est vitale, sans parler de faire et d'apprendre à le faire ensemble en tant que couple.
Et l'accent est mis sur la prière. Ce que nous avons vu au fil des ans, c'est que les maris auront leur propre vie de prière et que les femmes auront leur propre vie de prière. Et nous ne disons pas que c'est mal. Absolument pas. Vous avez certainement besoin de votre propre vie de prière, mais en tant que couple, vous avez besoin d'avoir du temps en couple ensemble. Ici, prier ensemble apporte le changement. Prier ensemble apporte des miracles. Pensez Y. Le tout premier miracle que Jésus a fait, c'était lors d'un mariage. Pour répondre aux besoins d'un couple marié. Rappelez-vous qu'il transforme l'eau en vin pour un couple. Ainsi, la seule façon pour nous de vraiment faire l'expérience de l'intimité spirituelle telle que Dieu veut que nous soyons nous, c'est de nous soumettre à la direction du Saint-Esprit et de prier ensemble.
Une fois que nous nous sommes mariés selon le plan de Dieu, nous nous lions physiquement. Mais souvent, nous oublions que le Seigneur veut que nous nous lions aussi spirituellement. C'est essentiel pour un mariage saint. Au fil des ans, nous avons rencontré beaucoup de couples qui vont à l'église et qui font partie de groupes de prière ou d'études bibliques et qui prient avec d'autres personnes pour ne pas prier ensemble en tant que couple. Ce que nous avons constaté au fil des ans, c'est que l'un des conjoints a généralement faim de cela et le désire, mais ne sait pas comment l'initier. Ils ne savent pas comment intéresser l'autre conjoint. Et nous pouvons nous habituer à prier avec d'autres personnes et oublier notre partenaire le plus intime ici. Il faut donc du dévouement, de la pratique et de la cohérence. Nous avons besoin d'avoir une vie vibrante de prière une chair. Nous pouvons nous consacrer à notre travail et nous ne pouvons jamais manquer notre équipe de football préférée. Si nous apportons ce dévouement à la façon dont nous envisageons de prier ensemble, nous passerons à un moment incroyable de prière ensemble. Et maintenant, pour nous, c'est un peu comme respirer de l'oxygène. Nous le faisons automatiquement. Nous avons notre propre temps de prière et notre intimité avec le Seigneur tout le temps. Nous avons notre temps de prière ensemble, nous prions au téléphone, nous prions dans la voiture, nous prions chaque fois que le besoin s'en fait sentir, où que nous soyons, parce que le Seigneur est toujours là avec nous et désire toujours que nous élevions tout ce dont nous avons besoin vers lui ou que nous entrions en communion avec lui. Ne pensez donc pas que cela doit être fait seulement d'une certaine manière, parce que Dieu est toujours avec nous. La chose la plus intime qu'un couple marié puisse faire est de prier ensemble. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous prions ensemble en tant que couple ? Tant de gens cherchent quelqu'un avec qui ils peuvent prier. Avant que David et moi commencions à marcher ensemble avec le Seigneur il y a de nombreuses années, il y a environ 30 ans, j'avais une dame dont j'étais très proche. Et nous avons prié ensemble sans cesse. Mais notre conjoint est censé être notre partenaire de prière le plus intime. Dans Matthieu 18, 20, il est dit quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, lorsque nous nous asseyons pour prier ensemble, Jésus est là. Il est ici avec nous, il est attentif et à l'écoute. Et donc notre conjoint est censé être plus proche de nous que n'importe qui sur terre. Nous devons donc décider, en tant que couple, de prier ensemble régulièrement. Et vous savez, comme je l'ai dit, tout le monde est occupé. Nous devons nous battre pour notre temps de prière. Parfois, je peux me lancer dans des tâches et j'ai un million de choses à faire et je dois faire toutes ces choses. Et puis il y a la prochaine chose à faire. Mais c'est une stratégie de combat de l'ennemi. Et donc, nous avons tout besoin d'une stratégie de combat pour lutter contre cela, pour être victorieux. Avez-vous prié ensemble? Priez-vous souvent ensemble ou est-ce un défi pour vous? Prenez quelques minutes et discutez de la façon dont ce que vous venez d'apprendre pourrait faire une différence.
Le pouvoir de l'intimité spirituelle, partie 2.
Nous devons donc être d'accord avec la volonté de Dieu et la voir s'accomplir sur la terre. Quand David est entré en relation avec le Seigneur, je marchais avec le Seigneur depuis environ 10 ans. À ce moment-là, j'avais défendu notre mariage pendant tout ce temps. C'était une période incroyable de ma vie. J'ai pu entendre la voix de Dieu. Je me suis tellement rapprochée de lui et j'ai eu une relation si intime avec le Seigneur. Quand David est entré en relation avec le Seigneur et que nous sommes venus suivre ce cours pour la première fois, j'ai découvert que nous étions censés prier ensemble. Cela semble drôle puisqu'il était le nouveau chrétien, mais j'étais plus hésitant que lui. Alors je suis allé voir le Seigneur et j'ai dit, « Eh bien, Seigneur, comment cela fonctionne-t-il? Comment dois-je procéder ?» Et le Seigneur m'a dit, « Tu vas te coucher avec cet homme et tu ne peux pas prier avec lui. » Et ça m'a vraiment parlé. Et j'ai pensé, quelle est l'importance de l'intimité spirituelle et de la puissance d'un mari et d'une femme qui prient ensemble? Quelle est la puissance de cette intimité si l'ennemi la combattait autant? Et donc j'ai dit, ça y est, je ne joue plus à ce jeu. Et nous nous sommes vraiment consacrés à recevoir tout ce que Dieu avait pour nous. Lorsque vous décidez ainsi de prier ensemble en tant que mari et femme, l'ennemi vous fournira des excuses et des interruptions sans fin. Mais vous devez tenir bon et vaincre l'ennemi.
Votre pouvoir dans le combat spirituel augmente lorsque vous priez ensemble. Lévitique 26, 8. 5 d'entre vous en chasseront 100, et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite. Tes ennemis tomberont par l'épée devant toi. Nous avons l'autorité, au nom de Jésus, de démolir les forteresses, et croyez-moi, l'ennemi sait à quel point il est puissant lorsqu'une seule chair se rassemble dans la prière. Une personne sur 2 divorce si Dieu n'est pas dans son mariage. Une personne sur 50 divorce si elle croit et va à l'église. Assez régulièrement. 1 sur 1105 s'ils ont une relation avec le Seigneur et une vie de prière active ensemble. Il y a de la puissance quand les deux se réunissent dans la prière. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose que le Seigneur nous a montré quand nous avons commencé à prier ensemble. Il faut garder les yeux ouverts et rester éveillé. Parce que ce que nous avons observé quand vous commencez à prier, c'est un esprit endormi. Et j'ai observé cela partout dans différents groupes de prière. Vous entrez, et si vous êtes à l'église un dimanche, faites simplement attention. Quand ils vont prier, tout d'un coup, vous verrez des gens bâiller. C'est une automatique. Ils commencent à bâiller juste là. Et c'est ce que nous appelons l'esprit endormi. Une fois que vous le reconnaissez, vous pouvez le combattre très facilement. Absolument. Nous allons donc parler des directives pour prier ensemble, mais permettez-moi d'abord de partager une petite histoire. Nous en avions quelques-uns avec nous et nous les formions. Nous sommes allés chez eux pour passer du temps avec eux dans la prière. Quand nous sommes arrivés, le mari s'est approché de moi et m'a dit, « Tu sais, Dave, cette histoire de prier ensemble ne fonctionne tout simplement pas pour nous et cela devait être le Saint-Esprit parce que je l'ai dit. Eh bien, pourquoi ne me montrez-vous pas ce que vous faites ici ?» Et donc il a dit, « Ok, suivez-moi » et lui et sa femme sont allés dans la chambre. Il est allé d'un côté du lit et elle est allée de l'autre côté du lit. Ils se mirent tous les deux à genoux. Ils ont posé leurs mains sur le lit et ils sont restés très silencieux pendant quelques minutes. Et puis, tout d'un coup, il a dit Amen. Et elle a dit Amen. Et il a dit, vous voyez ce que je veux dire? Cela ne fonctionne tout simplement pas pour nous. Et je me suis mis à rire. J'ai dit, oh mon Dieu, j'aurais dû vous expliquer cela un peu mieux. J'espère donc que nous pourrons vous expliquer une meilleure façon de faire ici.
Cela devrait être un moment intime, vraiment personnel, entre vous et votre conjoint et Dieu. C'est ce que c'est censé être. Ce n'est donc pas le moment de critiquer votre conjoint. Ce n'est pas le moment de critiquer la façon dont il prie, combien de temps il prie, combien de temps il prie. Est-ce que ce passage de l'Écriture qu'ils ont prié était exact? Quand nous avons commencé à prier ensemble, je pouvais prier pendant des heures et David disait deux phrases. Il avait fini
et j'ai
dit. Qu'est-ce
que tu veux dire que tu n'as rien de plus à dire que ça?
Qu'est-ce que tu veux dire que tu n'as rien de plus à dire que ça?
Et
alors nous pourrions finir par nuire à notre temps de prière et à l'intimité que Dieu voulait construire.
Parce que vous devriez prier comme moi.
Parce que j'ai pensé que vous devriez prier comme moi.
Je ne vois pas pourquoi nous devons prier aussi longtemps.
Et il est comme.
Et donc nous avons dû apprendre ce que
c'était que de se réunir dans notre propre temps de prière
et de s'honorer les uns les autres et de ne pas critiquer la façon dont nous prions.
Et donc nous avons dû apprendre ce que c'était que de se réunir dans notre propre temps de prière et de s'honorer les uns les autres et de ne pas critiquer la façon dont nous prions. Si vous corrigez constamment votre conjoint lorsque vous priez ensemble, il ne voudra plus prier avec vous. Ils ne voudront pas le faire. C'est le moment pour nous de grandir et d'entrer dans le même bateau. Et si vous êtes coupable d'avoir fait cela, si vous l'avez fait, repentez-vous simplement. Comme David l'a dit dans d'autres leçons, quand nous constatons que nous n'avons pas été à la hauteur de Dieu, nous pouvons simplement aller nous repentir. Nous pouvons nous repentir auprès de notre conjoint et dire, « Ok, recommençons. » Dans Jacques 5, 16. Il est dit, « Les prières d'un homme juste sont très puissantes. » J'ai beaucoup réfléchi à ce verset au fil des ans. Ce n'est pas parce que nous sommes si justes. C'est la justice que nous avons en Jésus. Parce que nous sommes en relation avec Dieu à travers notre alliance avec Jésus. Et cela signifie qu'ils sont puissants. C'est-à-dire lorsque nous prions en accord avec la parole de Dieu, en accord avec sa volonté. Quand nous écoutons son cœur et que nous venons prier ensemble. Il y a de la puissance dans les prières que nous faisons. Voir la volonté de Dieu s'accomplir sur la terre et penser à la puissance quand les deux le font ensemble. Et donc écoutez ce que votre conjoint prie. Écoutez-les. Faire attention. Cela vous donnera une compréhension plus intime de leur marche avec le Seigneur. Et vous aurez l'occasion d'entendre leur cœur. Vous aurez l'occasion d'entendre quelles sont leurs préoccupations et leurs besoins. Mais nous ne pouvons pas essayer de faire prier l'autre comme nous prions parce que nous sommes tous les deux uniques et que Dieu nous a donné à la fois des dons uniques et des façons uniques de voir les choses. Il s'agit de les mélanger. Toutes les femmes que j'ai rencontrées et qui prient avec leur mari disent qu'elles se sentent plus proches de lui depuis qu'ils ont commencé à prier ensemble. Et je sais que pour moi, quand je vois David prier, dans la parole, quand nous prions ensemble et qu'il parle au Seigneur, cela le rend très attrayant pour moi et je me sens plus proche de lui émotionnellement et physiquement. C'est pour ça que c'est si intime. Prier ensemble, c'est un don spécial de Dieu avec l'intimité de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, y a-t-il des choses que vous devrez peut-être faire différemment pour avoir une vie de prière active ensemble? Discutez de ce que vous pensez.
Le pouvoir de l'intimité spirituelle, partie 3. 1 Corinthiens 14 verset 15 dit, « Je prierai avec l'esprit et je prierai avec l'intelligence. » Il y a donc un moment où nous devons prier dans l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes votre langue de prière quand vous priez en langue. Et un temps pour prier avec compréhension. Prier avec compréhension est un peu plus difficile parce que vous pouvez avoir tendance à manipuler ou à corriger parfois. Si je rentre du travail et que la première chose dont elle parle, c'est que nous avons besoin d'un temps de prière ensemble et que je viens de franchir la porte. Je veux juste m'asseoir et me reposer et j'ai peut-être tendance à être un peu grincheux. Et quand je suis un peu grincheux, je trouve que mes prières peuvent être un peu manipulatrices et que j'ai besoin de travailler à travers cela et de nettoyer cela tout de suite. Un autre aspect est ce que je pense être un bon temps de prière et ce qu'elle pense être un bon temps de prière, en ce qui concerne la longueur, peut parfois causer des problèmes.
Je veux vraiment que tout le monde entende que cela a peut-être du mal avec cela. Dieu veut que nous ayons cette intimité ensemble, et c'est ce que nous faisons. Nous avons des temps de prière puissants ensemble. Mais ensuite, je peux passer beaucoup de temps seul dans l'intercession, à prier au sujet des choses que Dieu a placées sur mon cœur pour prier. Cela n'empêche pas la proximité que nous avons alors en tant que couple.
C'est un bon point. Lorsque nous nous réunissons dans la prière, ce sont des choses qui nous affectent tous les deux en tant qu'une seule chair, notre famille, nos enfants, le ministère, les emplois, la santé ou nos parents âgés que nous gardons dans la prière. Il est donc important que les choses que nous avons en commun soient utilisées dans notre temps de prière ensemble. Nous entrons en sa présence avec louange et adoration. Le psaume 100, verset 4 dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Nous allons simplement commencer à le louer en disant merci, Seigneur, gloire à toi. Tu es le Père puissant. Je t'aime, Seigneur, tu es puissant. Par-dessus tout, nous te remercions, Seigneur. Le louer, le remercier et l'adorer. Et c'est comme si la prière découlait simplement de la louange. C'est tout simplement incroyable.
Et j'aimerais lire l'Écriture dans Philippiens 4, versets 6 et 7. N'ayez aucune inquiétude du tout, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et alors la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la première écriture que j'ai mémorisée parce que, comme je l'ai dit, j'ai grandi avec beaucoup de peur. Et quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la parole de Dieu il y a toutes ces années, je suis arrivée à ce passage de l'écriture et il est dit de ne pas s'inquiéter du tout. Je me dis que tu dois plaisanter. Je savais que la parole de Dieu était la vérité. Je savais que c'était le cas. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est incroyable. Vous avez dit de ne pas vous inquiéter du tout, mais de venir prier et de présenter vos requêtes devant Dieu. Je le remercie d'avance avant qu'il n'y réponde. Et alors, la paix qui surpasse toute intelligence va monter la garde sur moi en Jésus-Christ. Et cela a contribué à changer notre vie de prière ensemble parce que je ne me concentrais pas sur toutes les circonstances tout le temps lorsque nous prions dans l'anxiété. J'étais maintenant concentrée sur Dieu, sur qui il était et sur ce qu'il allait faire, et cela m'a aidé à construire ma vie de prière et ma foi en lui. Nous avons tenu des journaux, et parfois, nous pouvons regarder en arrière et dire, « Regardez ce que Dieu a fait, souvenez-vous de cela, regardez quand il a fait cela, priez la parole. » Prier la parole. Dans 1 Jean 5, 14 et 15, il nous dit que si nous sommes d'accord avec Dieu sur quelque chose pour lequel nous devons prier, nous verrons que cela s'accomplit sur la terre, la Bible est toute la parole de Dieu. Chaque parcelle de cela est sa parole. Il y a tellement de versets puissants que nous pouvons prier quand nous avons des besoins, ou des choses sur lesquelles nous voulons être d'accord avec le Seigneur et prier avec foi, et voir ses miracles. De cette façon, nous savons que nous sommes d'accord avec lui. Et nous ne nous contentons pas de laisser notre chair entrer et dire, « Eh bien, je veux ceci, je veux cela. » C'est ce que dit Ésaïe 55, 11. Ainsi sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas nul, mais il accomplira ce qu'il me plaira, et il prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyé.
Discutez ensemble du contenu et de la durée de votre temps de prière. Ensuite, vous prendrez tous les deux plaisir à prier ensemble.
Je me souviens qu'une fois, alors que nous étions en train de prier, nous nous sommes tournés vers un certain passage des psaumes et cela a commencé. Mon enfant. Et j'allais lire tout le psaume et Dieu a dit non, arrêtez-vous là. Je veux que vous vous asseyiez tous les deux ici, que vous priez et que vous écoutiez mon cœur et que vous réalisiez ce que c'est que d'être mon enfant. C'était un moment absolument incroyable avec le Seigneur. Il n'était pas nécessaire qu'il y ait 5 versets, mais juste pour écouter ce que le Saint-Esprit disait pour l'instant. La prière est un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas un monologue. Il veut nous parler aussi. Pourquoi ne pas prendre quelques instants maintenant et vous donner un peu de temps pour vous asseoir là et ouvrir votre cœur à Dieu et trouver un lieu profond et merveilleux d'intimité ensemble en tant que couple? Priez ensemble et priez la bénédiction de Dieu les uns sur les autres. Prenez le temps maintenant de prier l'un pour l'autre et demandez à Dieu de vous bénir l'un l'autre dans votre mariage. Écoutez ce que Dieu veut vous dire.
La Bible nous dit aussi de prier dans l'esprit, notre langage de prière. Pour nous, c'est un moment incroyable ensemble. Nous avons parlé à beaucoup de gens et nous leur avons dit, eh bien, priez-vous ensemble dans l'esprit? Avez-vous votre langage de prière et priez-vous ensemble? Et c'est incroyable le nombre de personnes qui ne le font pas et qui ont dit, eh bien, vous ne pouvez rien comprendre. Eh bien, vous savez, vous avez 300 personnes dans un avion, vous le regardez dévaler la piste et décoller dans les airs. Je ne comprends pas très bien comment cela se produit non plus. Je suis étonné par certaines des choses qui existent dans la technologie, mais cela ne nous empêche pas de les utiliser. Non, absolument pas, croyez-moi, en tant que mari et femme, c'est une chose puissante de prier ensemble en langue, dans votre langue de prière. Je suis juste étonné de la façon dont chérie prit la parole. Cela bénit mon cœur de t'entendre quand nous sommes ensemble et que tu pries la parole. Mais quand nous nous réunissons et que nous commençons à prier ensemble dans notre langue de prière, j'apprécie vraiment ce moment parce que nous prions dans l'esprit. Il nous donne des visions et des paroles. Dieu le fera pour vous aussi. Il vous donnera des visions et des paroles, il vous montrera des choses.
Nous allons vous donner une étude scripturaire de la base du baptême du Saint-Esprit. Assurez-vous d'avoir votre Bible à portée de main, car nous allons faire un travail interactif au cours de ce segment. Avant son ascension au ciel, Jésus a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Actes 1, 4 et 5. Ceux à qui Jésus s'adressait étaient nés de nouveau lorsqu'il est venu à eux après sa mort et sa résurrection. Au verset 20 et 22, il était évident, d'après ce que Jésus leur disait dans le premier chapitre des Actes, qu'il y avait une autre expérience distincte qui s'offrait à eux. Dans Actes 1 verset 8, Jésus leur a promis qu'ils recevraient la puissance et deviendraient ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ceux qui se rassemblaient pour écouter Jésus l'aimaient beaucoup et avaient choisi de le suivre, mais il manquait de courage et d'audace. Tous l'avaient abandonné quand il a été crucifié. À l'exception de Jean et des femmes, Pierre avait même nié le connaître. De toute évidence, ils avaient besoin de la puissance qu'il leur faudrait pour vivre leur engagement envers lui.
Dans le chapitre 2 des Actes, tous les disciples étaient rassemblés en un seul endroit. Même Marie, la mère de Jésus, était là. Le Saint-Esprit est venu sur eux, et ils ont été remplis de puissance. La première manifestation extérieure de ce remplissage fut qu'ils commencèrent tous à parler en langue, comme l'Esprit le leur permettait dans Actes 2, 4. Ces langues étaient comprises par les gens de toutes les nations qui étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ceci, parlant entièrement en langue, donna aux disciples une unité et une puissance extraordinaire telle qu'ils n'en avaient jamais vu sur la terre, depuis que Dieu avait confondu les langues à la tour de Babel. Genèse 11, 6 à 9. Lorsque nous parlons comme un seul homme, et que nous avons un seul cœur et un seul but, il y a un pouvoir de parler en langue qui nous est fourni pour eux et pour nous. Cette unité qu'ils n'avaient pas auparavant. Cela leur a permis, et maintenant à nous, de nous réunir avec des croyants du monde entier, parlant différentes langues naturelles, mais parlant ensemble dans l'esprit.
La deuxième manifestation du baptême fut l'audace avec laquelle les disciples commencèrent à proclamer l'Évangile. Ces mêmes gens, qui auparavant avaient été si effrayés et si timides, attiraient maintenant de grandes foules avec leurs prédications. Ils ne se souciaient soudain plus de ce que les foules pensaient d'eux, ou s'ils étaient en danger. Ils avaient reçu la force nécessaire pour vivre la vie chrétienne.
Soyez assurés que Satan connaît la puissance de cette expérience. Il a beaucoup fait à travers les âges pour la discréditer. Et certaines églises, il les a même convaincus de lui attribuer le mérite de la manifestation extérieure du baptême, les langues du Saint-Esprit en particulier. Il a trompé beaucoup de gens en leur faisant oublier l'expérience et même en se moquant. À leur grande perte. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous sommes très limités dans ce que nous pouvons accomplir. Nous ne sommes pas branchés à la source vitale de puissance surnaturelle que le Saint-Esprit offre.
Le baptême ou la plénitude de l'Esprit-Saint n'a pas été une expérience unique dans l'histoire de l'Église. Tout au long du livre des Actes, la même expérience avec les mêmes manifestations s'est produite encore et encore. Acte 8, Acte 10, Acte 19. L'Église du premier siècle s'est déplacée dans l'Esprit d'une manière que nous convoitons souvent. Pourtant, cette même mesure de pouvoir et d'autorité est à la disposition de l'Église aujourd'hui. Si seulement nous le recevions. Si le corps de Christ était uni aujourd'hui dans la puissance du Saint-Esprit dans laquelle l'Église du premier siècle s'est déplacée, nous verrions la victoire et la gloire dont nous ne faisons que rêver maintenant. Nous pouvons cependant commencer dans notre maison, dans chacune de nos vies. Ce pouvoir est disponible de la même manière qu'il était disponible pour chaque disciple le jour de la Pentecôte. Nous n'avons qu'à tendre la main et à le prendre.
Dans Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. Jésus nous dit que si nous, qui sommes terrestres, savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus que le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous savons alors que nous devons demander à recevoir. Jacques nous dit que nous ne l'avons pas fait, parce que nous ne demandons pas. Jacques 4, 2. Le baptême du Saint-Esprit est accessible à tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont demandé à Jésus d'être leur Seigneur et Sauveur. Nous n'avons qu'à demander à être baptisés dans le Saint-Esprit. Et il nous baptise. Nous pouvons lui demander tout seul, ou nous pouvons demander aux chrétiens remplis de l'Esprit de nous imposer les mains et de prier avec nous. Acte 8, 17, Acte 19, 6. Sachez que lorsque nous demandons, nous le recevons. Prenez cette promesse et recevez tout ce que le Saint-Esprit a pour vous.
Dans la section suivante, nous allons expliquer la différence entre le don des langues et votre langage de prière. Les langues que nous recevons avec le baptême du Saint-Esprit sont notre propre langage de prière, pas le don des langues. Le don des langues, l'un des 9 dons du Saint-Esprit, c'est ce dont Paul parlait dans 1 Corinthiens, versets 14, 5, 13, 22 et 23. L'Écriture nous dit que ce don doit fonctionner en conjonction avec le don d'interprétation pour transmettre surnaturellement une parole de Dieu aux auditeurs. 1 Corinthiens 14, 27 et 28. L'autre langue des langues est ce dont Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 14 versets 14, 15, 18 et 19. Il s'agit de votre propre langage de prière personnel qui n'a pas besoin d'interprétation. Romains 8, 26 et 27.
Soyez donc ouverts à tous les dons que Dieu a pour vous. Si les langues ne se manifestent pas facilement lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, ne décidez pas que Dieu ne veut pas que vous ayez ce don. Au lieu de cela, demandez au Seigneur ce qui bloque votre don. Il peut s'agir simplement d'un argument intellectuel ou simplement d'un embarras. Cependant, il peut s'agir de quelque chose de plus grave, comme une implication antérieure dans la sorcellerie, lorsque les langues ne se manifestent pas. Demandez au Saint-Esprit de discerner le blocage.
Cependant, nous devons veiller à rester dans l'Esprit dans nos tentatives de recevoir et de ne pas entrer dans des activités charnelles. Les langues n'ont pas besoin d'être forcées. S'ils sont bloqués, nous n'avons qu'à discerner le blocage et à le supprimer. Ils s'écouleront alors facilement. Nous n'avons pas besoin de répéter après quelqu'un d'autre ou de bouger la tête ou la langue d'une certaine manière. Abandonnez-lui simplement votre langue pour qu'il parle à travers vous et il le fera.
Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas de bruit et que Dieu s'emparera surnaturellement de votre discours. Très souvent, vous prendrez conscience des mots qui ne vous sont pas familiers, et vous vous direz qu'ils n'ont aucun sens. Faites un pas dans la foi. Exprimez-les. Une fois que vous avez été obéissant en abandonnant votre langue, le Saint-Esprit commencera à vous fournir un tout nouveau langage magnifique. Commencez à utiliser ce langage pour louer Dieu et lui dire votre amour pour lui. Au fur et à mesure que vous utiliserez votre langue quotidiennement, vous commencerez à la voir augmenter. Cette augmentation et cet usage fréquent vous amèneront au désir de Paul de prier dans l'Esprit en toute occasion. Éphésiens 6, verset 18.
Les langues ne sont pas le seul don, ni même le don le plus important que Dieu a pour vous. Nous insistons ici sur ce point parce que votre langage de prière est une partie vitale d'une vie de prière active. Il y a tant de fois où nous ne savons pas comment prier ou où notre propre opinion obscurcit notre capacité d'entendre librement Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit prie une prière puissante à travers nous, une prière qui est la volonté parfaite de Dieu pour la situation. Notre corps a une voix et notre esprit en a une aussi. Prier dans l'esprit permet à notre esprit de dire librement ce que Dieu dit.
C'est tout ce que vous avez à faire. J'ai dit Seigneur Jésus. Je veux tout ce que tu as pour moi. Je veux tout abandonner à toi. S'il vous plaît, baptisez-moi dans l'esprit maintenant même. Je le reçois et je vous remercie. J'ai donc fait cette prière avec foi. Et j'attends. Je regarde autour de moi et je ne le sens pas, vous savez. Et donc j'ai continué à attendre. Et j'ai marché dans la foi et j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai commencé à partager l'histoire. Et ils ont dit, eh bien, prions simplement dans l'esprit et ils ont commencé à prier avec moi et bien sûr, j'ai commencé à prier en langue pendant que je priais avec eux. J'ai reçu mon langage de prière et c'est une chose incroyable. J'aime vraiment ça. Prier dans l'esprit.
Cela fait donc probablement près de 40 ans que je suis vraiment entré en relation avec Dieu en demandant à Jésus d'être mon Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est que 5 ou 6 ans plus tard que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et j'avais une dame, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'étais devenue une partenaire de prière. Nous avons beaucoup prié ensemble. Et un jour, elle m'a expliqué cela au sujet des langues et du baptême du Saint-Esprit. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais entendu parler. Elle m'a donc guidée et m'a fait part de beaucoup d'écritures. Et j'ai pensé que tout cela était tout nouveau pour moi. Je n'ai jamais entendu parler de cela quand j'étais à l'église quand j'étais jeune. Mais je savais dans mon cœur que je voulais tout ce que Dieu avait pour moi. Je suis donc rentrée chez moi et j'ai étudié les écritures et c'était très clair. C'était un peu plus tard, j'étais avec quelques dames et nous étions en train de prier. Ils priaient tous les deux dans l'esprit, et parce que j'avais dit à Dieu que je le voulais vraiment. Je veux tout ce que tu as. J'ai juste ouvert la bouche et j'ai commencé à prier dans l'esprit. C'était absolument merveilleux. J'étais en train de marcher le lendemain matin après que cela se soit produit. Et je suis restée là pendant quelques minutes et je me suis arrêtée un moment, la bouche ouverte, en prenant une profonde inspiration. C'était comme si tout avait changé. Le ciel était plus bleu, les arbres étaient plus verts, les fleurs étaient tout simplement la plus belle couleur que j'ai jamais vue. C'était comme si la création de Dieu venait de prendre vie d'une manière différente, et j'avais l'impression que nous le louions tous ensemble. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Lorsque Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit, nous recevons la force de vivre pleinement notre vie en lui.
Nous en avions quelques-uns que nous entraînions. Et ils restaient chez nous parce qu'ils venaient de l'extérieur de la ville et que le mari était là. Ils voulaient son langage de prière. Chérie et moi avions notre langage de prière et sa femme avait son langage de prière, mais pas lui. Alors j'ai dit que nous allions simplement commencer à prier dans l'esprit et que vous commenciez simplement à louer Dieu. Nous avons tous les trois prié dans l'esprit et il a commencé à louer Dieu, à remercier Dieu, à rendre gloire à Dieu et tout d'un coup, il a commencé à recevoir son langage de prière. Et ainsi, nous nous sommes tous assis là, priant ensemble dans l'esprit. Il est donc important que nous soumettions ce membre indiscipliné de la langue. De même, l'esprit aide aussi dans notre faiblesse, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Or, celui qui sonde les cœurs sait ce qu'est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 26 à 28. Priez dans l'Esprit accomplit sa volonté sur la terre.
Amen. Je me souviens qu'un soir, nous nous sentions vraiment attaqués. Pas dans notre seule chair. Nous nous sentions tous les deux agités et comme si quelque chose n'allait pas et nous ne savions pas ce que c'était. Et nous sommes allés nous coucher et nous n'arrivions pas à nous endormir. Et alors, finalement, David a dit, « Prenons autorité sur tout ce que fait l'ennemi, demandons à Dieu sa protection et prions simplement dans l'esprit. Comme nous ne savons pas ce qui se passe, nous avons prié en esprit pendant longtemps. Nous avons senti la paix de Dieu venir. Nous avons senti la paix venir, puis nous nous sommes endormis. Nos enfants ne vivent pas dans le même état. Et le lendemain, littéralement en l'espace de 10 minutes, chacun d'eux nous a appelés et nous a dit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit dernière, mais je me sentais vraiment malade. J'avais vraiment l'impression que quelque chose n'allait pas et j'étais malade. » Et puis tout d'un coup, c'est parti et j'allais bien. C'est la puissance de ce que Dieu peut faire lorsque nous nous réunissons d'accord et que nous permettons au Saint-Esprit de prier à travers nous parce que nous ne savions même pas ce qui se passait, mais Dieu l'a fait, et Dieu a répondu à nos prières. Nous devons prendre rendez-vous avec Dieu et les uns avec les autres, et nous devons le respecter. Donc, même si vous souffrez trop pour peut-être prier ensemble dans votre langue maternelle, asseyez-vous et priez ensemble dans l'Esprit. Nous pouvons donc traverser des épreuves, nous pouvons traverser des choses dans notre vie auxquelles nous devons faire face, mais nous savons que la puissance de Dieu est toujours là avec nous pour nous guider et nous diriger afin que nous puissions entendre sa voix et que nous puissions être d'accord avec lui.
Il est essentiel que vous priez ensemble en tant que couple. Comme nous l'avons dit au tout début, c'est le mortier qui maintient tout ensemble. Alors, faites-le, tout simplement. Vous savez que l'ennemi va vous voler votre temps. Vous savez que vous allez vous asseoir pour prier, que le téléphone va sonner, que quelqu'un va frapper à la porte. Vous savez qu'un million de choses peuvent arriver et vous pouvez penser à un million de raisons de ne pas prier, mais asseyez-vous et priez et vous serez bénis. Tout se réunit lorsque vous vous asseyez ensemble dans la prière.
Cher Père, comme c'est étonnant que non seulement tu entendes nos prières, mais que tu désires être en communion avec nous. Vous voulez entendre nos besoins. Tu veux parler dans nos vies, nous guider et répondre aux cris de nos cœurs. Aidez-nous à surmonter toute gêne et à partager profondément avec vous.
Merci de nous avoir rencontrés là où nous sommes. Bénis-nous pour que nous grandissions au nom de Jésus. Amen.